Vous avez pu remarquer que la première lecture était un petit peu longue. Je ne sais pas si ça en a dérangé certains, mais je pensais que l'unité du texte devait être conservée et qu'ainsi la parole de Dieu et Dieu pourrait nous parler aussi au travers de ce texte plein et entier. Et j'aimais aussi le fait que la deuxième lectrice ait repris le texte un peu en avant, ce qui donne un éclaircissement aussi par rapport au texte de Philippiens. Et finalement, le texte de Jean, qui nous parle de l'unité avec Christ et qui nous parle aussi d'œuvres plus grandes que celles que Christ a faites. Mais moi, souvent, j'ai envie de dire, commençons déjà par ce que Jésus a fait, ensuite on verra pour les plus grandes, n'est-ce pas? Et le texte sur lequel je vais me baser aujourd'hui, c'est le texte donc, qui est dans Philippiens 3. Alors, Philippe, c'est une ville de Macédoine, donc le roi Philippe de Macédoine, qui est le père d'Alexandre le Grand, pour situer un petit peu. Et donc, les Philippiens donc, habitaient cette ville là-bas. Et c'était en fait, donc les Macédoniens, c'était pas en fait dans le projet de Dieu, enfin dans le projet de Paul plutôt, c'était dans le projet de Dieu justement. C'était pas dans le projet de Paul d'aller visiter les Macédoniens. Lui, il voulait aller à Éphèse, mais le Seigneur l'a arrêté. Il a dit non, faut que tu ailles voir les Macédoniens là-bas, ils ont aussi besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et donc, Paul y est allé, a annoncé la bonne nouvelle qu'ils ont reçue avec joie. C'est aussi là-bas qu'il a chassé l'esprit de Python là, sur cette dame là, qui prophétisait, qui les suivait dans la rue. Et l'église de Philippe était une église vraiment, on va dire, un peu spéciale pour Paul. Une église qu'il portait vraiment dans son cœur d'une façon particulière. Et c'est d'ailleurs la seule église dont il a reçu des dons, dont il a accepté des dons pour lui-même, alors qu'il était en prison. Et donc cette lettre-là, il l'écrit alors qu'il est en prison. Et je vous invite à trouver du découragement dans cette lettre, si vous en êtes capable. Paul est en prison, il attend son sort, il ne sait pas comment va se dérouler le... quelle va être l'issue du procès. Mais en tout cas, il sait que devant le tribunal de Dieu, il n'aura pas à rougir. Paul, souvent, nous invite à imiter sa façon de faire, de vivre, d'être. Et plusieurs fois dans ses lettres, vous allez rencontrer un Paul qui invite donc les disciples de Jésus-Christ à l'imiter. Et même dans un passage, il précise « Imitez-moi comme moi j'imite Christ ». Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à seulement « Imitez-moi », mais il dit aussi suivez le modèle que vous avez en nous. Portez les regards sur ceux-là qui suivent ce modèle-là. Être un modèle dans l'Église n'est pas réservé aux pasteurs. Amen. Vous êtes d'accord? Souvent, les chrétiens sont là et se disent « Oh, mais... Tout ça, c'est pour le pasteur, c'est pour les anciens, c'est pour ceux qui sont vraiment dans les... » Non, c'est pour tout le monde. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne l'as pas seulement accepté comme Sauveur, tu l'as aussi accepté comme Seigneur. Et accepter Dieu comme Seigneur, c'est accepter sa Seigneurie sur nous. Donc ça veut dire que tu acceptes de te soumettre à Dieu librement. Et donc cette soumission à Dieu induit un comportement, induit des actions, des paroles, qui vont faire en sorte que oui, tu seras une Bible ouverte pour les païens, que oui, tu seras un exemple, que oui, tu seras un encouragement pour tes frères et sœurs. Nous tous dans l'Église sommes appelés d'une manière ou d'une autre à apporter quelque chose dans l'édifice. Nous sommes toutes et tous des pierres importantes de l'édifice de Dieu. Toutes et tous, nous avons notre place dans l'Église. J'aime ce passage de la parole qui dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Vous êtes d'accord? La parole ne dit pas tu aimeras l'Éternel ton Dieu avec tout le cœur de ton prochain, de ton frère ou de ta sœur. Non, c'est avec le tien. C'est avec la force que Dieu t'a donnée à toi. Tu ne dois pas te comparer à ton frère, à ta sœur, au pasteur. Non. Dieu t'a créé avec des aptitudes. Dieu t'a donné aussi des dons. Alain, la parole nous dit, il donne le don d'interprétation des langues. À l'autre, il donne le don des langues. Alain, il va donner le don de prophétie. À l'autre, il va donner le don d'enseigner, le don de guérir les malades. Le don de bien chanter ou d'amener une louange glorieuse dans l'Église. À chacun, Dieu donne des dons. Et on ne doit pas les comparer les uns les autres. On ne doit pas non plus envier le don d'un autre. Ah non, lui vraiment son don, ah je suis jaloux. Tu peux être jaloux d'une certaine manière dans le sens où Paul nous invite d'ailleurs à aspirer au don de prophétie. Mais ne sois pas envieux. Regarde ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a mis dans ta main. Comme Moïse. Moïse aurait pu se comparer à Pharaon et dire, mais Pharaon, il a une armée, il a des épées, il a des lances. Mais Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que je t'ai donné? Ce n'était qu'un bâton, n'est-ce pas? Mais avec ce bâton, il a conduit Israël hors d'Égypte. Il a conduit Israël au travers le désert. Bon, il n'aurait pas dû frapper sur le rocher, hein? Il aurait dû seulement parler au rocher pour que le rocher donne ses eaux. Mais regarde ce que Dieu met dans ta main. Et fais la différence avec ce que Dieu met dans ta main. Sois un modèle avec ce que Dieu met dans ta main. Sois une référence dans l'Église avec ce que Dieu met dans ta main. Selon ton cœur, selon ta force. Selon l'intelligence que Dieu t'a donnée. Paul aimait beaucoup l'église de Philippe. Il la portait vraiment dans son cœur d'une manière spéciale, comme je vous l'ai dit. Et quand des parents aiment leurs enfants, je fais un peu la comparaison parce que quelque part, il les a engendrés en Christ. Il les a aidés à venir à Christ. Et donc, il y a une certaine responsabilité lorsque tu amènes quelqu'un à Christ, tu es quelque part responsable de cette âme, même si tu n'en es pas vraiment responsable de ce qu'il va faire, dire, etc. Mais tu te sens responsable, en tout cas, de sa croissance, du fait qu'il va bien évoluer dans l'Église. Et c'est un fardeau que parfois Dieu met sur nos cœurs. Et c'est le fardeau, en tout cas, que Dieu met sur le cœur du pasteur. C'est ce fardeau-là que le pasteur a, en premier. De paître les brebis, que les brebis aillent bien, soient bien nourries, grandissent bien. Mais il a aussi ce fardeau d'avertir les brebis. De leur dire, attention, n'allez pas longer le bord là-bas. Parce qu'il y a une ravine, vraiment profonde, plus de 20 mètres. Si vous allez longer, brouter, je sais, l'herbe est belle, l'herbe est tendre, mais là, c'est la ravine. Si vous y allez, vous allez tomber, vous casser le cou et ce sera fini pour vous. Ou alors, il va dire, faites attention. Là-bas, à l'orée du bois, l'herbe est tendre, l'herbe est belle, mais le loup rôde, le loup guette. Faites attention. C'est aussi le devoir et le fardeau du pasteur. Et en bon pasteur, Paul tient à prévenir ses bien-aimés de Philippe. Et il les avertit contre certaines personnes. Qui font du tort à l'Église. Et ces personnes qui font du tort à l'Église, ce ne sont pas des gens qui sont en dehors de l'Église. Ce sont des gens qui sont à l'intérieur même. Car, nous dit Paul, il y en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui nous dit ceci. Que celui qui ne bâtit pas, qui ne construit pas, avec zèle, celui-là détruit la maison. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé sur un chantier. Il y a des corps de métier ici? Non, personne? Ah. Bon, ben je vais vous expliquer alors. Quand vous travaillez sur un chantier, chacun un petit peu sa tâche, il y a le chef de chantier qui donne à chacun la tâche qu'il doit faire. Mais si maintenant, il y en a un qui se croise les bras, qui se tourne les pouces, et qui dit « Oh, les autres feront bien ça, j'ai pas besoin vraiment d'aider. » Ou si lorsqu'il faut porter une poutre, comme les poutres que vous voyez là, qu'il faut s'y mettre à plusieurs, et vraiment donner pour lever la poutre, pour pouvoir la poser sur le toit, et qu'il y en a... Pardon. Et qu'il y en a deux ou trois qui se disent oh, on va faire semblant de pousser. Il peut arriver un accident. Dans l'Église, c'est pareil. Nous comptons les uns sur les autres. Et si l'un ou l'autre se dit oh, mais les autres vont bien le faire, c'est bon. Alors que non, tu dis je veux travailler, je veux œuvrer avec et pour le Seigneur, mais quand vient le moment. Tu désertes, quand vient le moment, tu fais les choses à moitié, quand vient le moment, tu viens tellement en retard, il reste 10 minutes. C'est pas sérieux, mon frère. Paul dit, imitez-moi. Imitez vos leaders. Imitez celles et ceux qui ont du zèle pour l'Évangile. Et le zèle, c'est contagieux. C'est un peu comme le feu. Si vous prenez un petit bâton, vous y allumez le feu, ce petit bâton tout seul va pas faire long feu. C'est le cas de le dire. Mais si vous mettez plusieurs branches ensemble, vous ajoutez du bois, ce feu va prendre de l'ampleur, va grandir, va illuminer et bien réchauffer. Et si c'est du bon bois, ça va durer longtemps et vous vous chaufferez longtemps. Eh bien, c'est un peu pareil aussi dans l'Église. Tout seul, c'est difficile. Même parfois, juste le fait de se sentir seul, c'est difficile. Lorsqu'Élie a fui Jézabel qui voulait le tuer là dans le désert, il s'est plaint à Dieu, mais il dit, mais Seigneur, je suis resté le seul en Israël qui n'ait pas plié le genou devant Baal. Et Dieu lui a dit, non, tu n'es pas seul. Je me suis gardé un reste. Il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Mais Élie, ce grand prophète qui avait fait des miracles choquants, j'ai envie de dire, alors qu'il se sentait seul, était prêt à tout abandonner. Alors ne laissez pas votre frère, votre sœur, seul sur le champ missionnaire, sur le terrain d'évangélisation, dans l'église. Il a besoin de vous à ses côtés. Ne fût-ce que si vous l'encouragez en disant « Mais je vais prier pour toi. Je vois que toi, tu t'investis dans l'église à telle et telle charge, je vais prier pour toi. » Ne fût-ce que ça, ça va l'encourager à lui dire « Ah, je ne suis pas tout seul. » Il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Vous connaissez certainement des personnes qui sont concentrées par toutes les inquiétudes de ce monde. De quoi je vais m'habiller? Comment je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais manger? Quelle voiture je vais acheter? Quelle maison? Etc. Ce sont des inquiétudes légitimes, j'ai envie de dire. On a besoin de manger, on a besoin de s'habiller. Mais lorsque ces choses prennent le dessus sur notre attitude par rapport à notre identité en Christ, alors il y a un problème. Si tu commences à prier comme ceci, « Seigneur, ô Éternel, mon voisin là, sa voiture elle est trop belle. » Je veux une voiture plus belle que la sienne. Comme ça, je vais lui fermer sa bouche. Il ne fera plus le malin. Est-ce que Dieu entend ce genre de prière? Là, j'ai fait une caricature grosse comme une maison. D'accord. Mais bien souvent, nos prières ressemblent un peu à cette caricature. Nous cherchons à satisfaire nos propres besoins. Nous ne prions pas selon l'Esprit de Dieu. Nous ne demandons pas en lui. Nous avons lu ce passage dans Jean où le Seigneur dit que tout ce que vous me demanderez en mon nom, je vous l'accorderai, je vous le donnerai. Mais qu'est-ce que ça veut dire demander en son nom? Ça veut simplement dire Seigneur, je veux un gros paquet de bonbons dans le nom de Jésus. Parce que tu as dit dans le nom de Jésus, il y a un paquet de bonbons qui va apparaître? Non. Ce n'est pas ça. Lorsque la Bible parle du nom, la Bible parle de quelque chose de plus grand que simplement ce que nous appelons le nom. Ça, c'est vraiment la signification. C'est vraiment toute la personne qui est quelque part résumée dans le nom. Et donc lorsque nous disons « je vais prier dans le nom de Jésus », c'est en Jésus, c'est en ce que Jésus signifie, c'est en ce qu'il représente, et pas seulement dire « Ah, au nom de Jésus », non. Cela veut dire que ta vie doit être conforme à sa vie, ta pensée doit être conforme à sa pensée, tes projets doivent être conformes à son projet. Bien souvent nous prions comme ceci, « Oh Seigneur, bénis ceci, bénis cela, bénis mes projets. » Alors que nous devrions plutôt commencer par demander « Seigneur, mais quel est ton projet pour ma vie ?» Et lorsque tu demandes quel est le projet du Seigneur pour ta vie, et que tu vas prier pour que Dieu bénisse ce projet, mais comment est-ce que Dieu ne va pas bénir un projet que lui-même a à cœur et qu'il a déposé sur ton cœur ? Ne faisons pas du tort à l'Évangile. Lorsque nous prions, en Jésus. C'est que notre vie s'est conformée à Christ. Nous prions selon sa grâce, pas selon nos œuvres, pas selon nos mérites. Nous prions selon sa volonté, selon l'inspiration de son Esprit Saint. Sinon, nos prières sont vaines. Elles ne cherchent qu'à satisfaire nos envies, nos désirs charnels. Et c'est en cela que Paul dit que leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Je sais qu'il y a des débats qui ont agité les pubs ces temps-ci. Je ne veux pas revenir dessus. Mais il y a des gens comme ça qui se vantent de choses honteuses. Mais ici, Paul faisait surtout référence à ceux qui voulaient imposer quelque part la circoncision aux païens, qui eux mettaient leur gloire justement dans leur circoncision, dans le fait qu'ils étaient fils d'Abraham, etc., descendants d'Abraham, etc. Et Paul dira que toutes ces choses-là, lui pouvait bien se prétendre de toutes ces choses-là. Lui, circoncis le huitième jour, pharisien de chez pharisien, persécuteur même de l'Église, donc c'était un juif de chez juif. Mais il a dit, toutes ces choses-là, je les considère comme de la boue. À cause de Christ, grâce à Christ, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et la véritable circoncision, c'est celle du cœur. Et c'est là vraiment que se situe l'imitation de Paul, dans cette circoncision du cœur. S'il n'y a pas de circoncision du cœur, alors on est ballotté à tout vent de doctrine, à tout vent de convoitise. Mais s'il y a la circoncision du cœur, alors vraiment, nous pouvons prétendre à la citoyenneté dans les cieux que Christ nous réserve. Et c'est là que doivent être nos pensées, doit être notre cœur. Si nous ne nous conformons pas à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut, nous ne pouvons pas prétendre au ciel. Nous ne pouvons pas prétendre être des amis de Dieu. Comment est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas le frère ou la sœur que tu vois ? Comment est-ce que tu peux prétendre être ami de Dieu alors que tu as si difficile à ouvrir ta main pour donner, pour partager? Comment est-ce que tu peux prétendre être ami de Dieu alors que toute ta vie n'est construite que sur des illusions? Être ami de Dieu, c'est faire sa volonté. Être enfant de Dieu, c'est faire sa volonté. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront au ciel. Amen. D'accord. Mais c'est ceux qui font ma volonté. C'est ceux qui pratiquent la justice. Nous avons lu dans Ézéchiel un long plaidoyer de la part de l'Éternel en faveur de la grâce, en faveur du pardon, de celui, de celle qui se détourne de ses mauvaises voies. Venir à Christ, c'est ça, c'est se détourner de ses mauvaises voies. La première chose que Jésus a prêché après son baptême, c'était quoi? Je vous pose la question. Allez, les théologiens. La première chose que Jésus a prêché après son baptême, qu'était-ce? C'est-à-dire
il m'a envoyé pour... l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer
la bonne. Oui, pour annoncer la bonne nouvelle, oui. Ça, c'est quand il est allé à la synagogue. Mais avant la synagogue, juste après son baptême, il a commencé à prêcher dehors, comme ça. Il a prêché quoi? Pardon?
La repentance.
La repentance. Amen, c'est ça. La repentance. C'est le premier message de Christ à l'Église, à l'humanité. C'est « repentez-vous ». C'est changer. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais vous, est-ce que vous voulez que le méchant meure? Alors pourquoi est-ce que vous ne leur dites pas « repentez-vous » Parce que si vous ne leur dites pas, c'est que quelque part vous avez envie qu'ils meurent. Vous ne voulez pas qu'ils sachent que s'ils se repentent, Dieu est bon et Dieu va leur pardonner. C'est la première chose que Jésus a annoncée. Alors ce doit être aussi, en principe, notre poignée de main. Je caricature, bien sûr, parce que si vous sortez après et que vous dites aux gens « Repends-toi », ça va faire bizarre. Mais plus sérieusement, ce doit être quelque chose qui doit être constamment devant vos yeux. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que Dieu est prêt à te pardonner. Tu as une mauvaise vie, tu fais de mauvaises choses, mais si tu te détournes de tes mauvaises voies et que maintenant tu pratiques la justice, que tu commences à faire le bien, à chercher à faire le bien, eh bien, Dieu est prêt à te pardonner. Dieu te pardonne. Dieu fera en sorte que tu vives. Et dans Ézéchiel, il n'était pas question du sacrifice de Jésus-Christ. Mais il était question de la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, on ne savait pas vraiment à l'époque comment elle allait se concrétiser. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un paye. Dieu ne peut pas abaisser sa justice en dessous de celle des humains et laisser le mal impayé. Donc c'est pour ça qu'il a donné la vie de son Fils unique, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions être pardonnés. C'est nos fautes qu'il a portées. Alors j'aimerais vous encourager ce matin à vivre une vie conforme aux enseignements de Christ, à obéir à sa parole, à obéir à son commandement. Vous connaissez le commandement nouveau que Christ a donné. Dans l'ancienne alliance, c'était « aimez-vous « aime ton prochain comme toi-même ». Ça, c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est venu visiter l'humanité. C'est pourquoi il a donné un nouveau commandement. « Aimez-vous les uns les autres ». Comme je vous ai aimé. Et cela résume toute la loi. Ça résume tout ce que Dieu veut que nous puissions faire dans ce monde. Faire le bien, nous aimer. Et si tu aimes l'humanité, Annonce-lui la repentance. Annonce-lui la bonne nouvelle. Et en cela, tu seras imitateur de Paul. Et Paul lui-même qui était imitateur de Christ. La première chose que Christ a faite, il a annoncé la bonne nouvelle. Il a annoncé la repentance. Et la chose, la première chose que Paul faisait partout où il allait, qu'est-ce qu'il faisait? Pardon. Non, vous pouvez répondre. Qu'est-ce qu'il faisait, Paul, partout où il allait? Pardon? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle. Il annonçait la repentance. Soyez mes imitateurs. Annoncez la bonne nouvelle. Annoncez la repentance. Et vous verrez que dans ce lieu, il n'y aura plus assez de place. Amen. Les murs vont craquer. Amen. Amen.